Vous êtes chef d'entreprise artisanale ou conjoint de chef d'entreprise artisanale et vous êtes non salarié?
Vous souhaitez suivre une formation technique, digitale ou de gestion?
Faites-vous accompagner financièrement pour gagner en compétences et en compétitivité.
Rendez-vous sur le site fafcea.com ou contactez l'organisation professionnelle représentative de votre métier pour vous aider dans vos démarches.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, à la radio RMC Story, canal 23 de la TNT. On est évidemment très 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 heureux de démarrer cette nouvelle semaine avec vous, grâce au 3216, bien sûr, votre numéro, grâce également à l'appli RMC, rubrique Direct Studio. Vous nous écrivez des messages et Rémi Barré se fera un plaisir de les lire. Salut Rémi.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Perico Légas est là comme chaque lundi, salut Perico.
J'étais en train de me dire que ça fait un certain nombre d'émissions qu'on fait ensemble.
Oui,
c'est j'ai vrai. Essayé de la compter, je ne sais pas si vous n'êtes pas vous-même à appeler pas loin de 250 émissions.
Oui, ça doit être ça, moi je n'ai pas compté.
Voilà.
Je compterai à Noël.
Enfin, on est toujours là.
Oui, exactement. Écoutez, touche du bois. Ça commence bien cette émission. On est avec notre économiste, bien sûr, Pierre Rondeau. Salut Pierre.
Je vous rassure, bonjour à toutes et à tous, je ne me suis pas posé la question.
Oui, c'est
je
vrai.
Je ne sais pas, ça fait 2 ans qu'on est là, c'est très bien, on prend du bon temps, oui. Mais voilà, c'est l'essentiel.
C'est déjà bien, il vient tous les lundis également. Ouais. Jérôme Lavrieux, propriétaire de Gîtes, ça va Jérôme?
Oui, et quand on aime, on ne compte pas.
Exactement.
Je suis totalement d'accord avec vous. Jérôme, au sommaire d'Estelle Midi aujourd'hui, le meurtre et le viol de Vanessa, une ado de 14 ans, par un homme déjà condamné pour des faits d'agression sexuelle. Faut-il rendre public le casier judiciaire des délinquants sexuels? On attend vos appels, vos réactions au 32-16. À 13h, la proposition d'Aurélien Pradier, candidat à la présidence des LR, d'instaurer un impôt sur le revenu pour tout le monde. Bonne ou mauvaise idée? Actuellement, seuls 44% des Français payent l'impôt sur le revenu. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h45, la minute conso avec Paul Lassen. On parlera du bonus réparation. L'État va vous aider à réparer votre électroménager. Mais décidément, l'État fait tout dans ce pays. À 14h, faut-il sacrifier nos animaux de compagnie pour des raisons écologiques? Production de nourriture, excréments, atteinte à la biodiversité. Les chiens et les chats sont d'énormes pollueurs. Et puis on vous fera gagner un cadeau tout au long de l'émission. Vous nous appelez au 3216 et puis on vous fait gagner un cadeau. Le Super Challenge Foot, c'est une boîte de jeux. On posera une question de cette boîte de jeu, si vous répondez bien, et bien vous repartirez avec la boîte, c'est tout simple.
RMC Estelle Midi.
Midi 7 sur RMC et on va démarrer tout de suite Estelle Midi avec l'actualité du jour. C'est le meurtre et le viol de Vanessa, une adolescente de 14 ans. Son meurtrier est un homme de 31 ans qui avait déjà été condamné pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs, mais son passé, Rémi Barré, était inconnu de tous.
Oui, tu l'as dit, hein, il est aujourd'hui âgé de 31 ans, poursuivi pour des faits d'agression sexuelle en 2006 et pour viol sur mineurs. En 2008, à l'époque, lui-même donc était mineur. Il avait été condamné à une peine de 15 jours de prison. Depuis, il n'avait pas fait parler de lui et n'était pas suivi dans le cadre d'un contrôle judiciaire. C'est ce qu'a fait savoir le procureur de la République, Olivier Naboulet. C'est allé depuis peu à Marmande. Ce suspect était en couple avec une femme, déjà mère d'un enfant de 5 ans. Et ensemble, ils venaient tout juste d'avoir un bébé. Un profil qui, ailleurs, ne serait peut-être pas passé inaperçu. C'est le cas dans certains États des États-Unis où le passé criminel d'un individu peut-être révélé à tous. Dans le Montana, par exemple, ou en Alaska, un simple moteur de recherche public permet en quelques secondes de savoir si un délinquant sexuel habite à proximité de chez vous. Il suffit de rentrer votre adresse et vous voyez si c'est le cas. En Grande-Bretagne, cette fois, les parents peuvent demander à la police si un individu en contact avec leur enfant, un professeur par exemple, un voisin ou un ami, un babysitter, n'est pas inscrit dans le fichier des délinquants sexuels. Il s'agit de la loi Sarah. Sarah, parce que c'était le nom d'une fillette de 8 ans. Elle avait été violée et tuée en juillet 2000 dans le sud de l'Angleterre par un homme de 42 ans, récidiviste, déjà condamné à 5 ans de prison pour viol sur mineur.
Alors, faut-il rendre public le casier judiciaire des délinquants sexuels? Je commence avec vous, Pierre Rondeau.
C'est compliqué comme question.
Ah oui.
Quand vous me l'avez posé en début de matinée, j'ai vraiment réfléchi parce que d'un côté, je crois et j'ai envie de croire à la rédemption et non pas au pardon, parce que c'est un bien grand mot quand on parle de viol et d'agression sexuelle, mais en tout cas une rédemption de la part de l'agresseur ou de la personne qui a fauté à ce niveau-là, est une grande faute, hein, précisément. J'ai envie de croire que la prison permettrait, et je dis au conditionnel, de réhabiliter, de réinsérer, de réinstaurer un équilibre mental et moral pour la personne. C'est très naïf ce que je dis, parce que d'un autre côté, on le sait très bien qu'il y a beaucoup de récidivistes dans le cadre des agressions sexuelles, et qu'on peut aussi estimer ou parler de maladie mentale à ce niveau-là.
Certains, il n'était même pas suivi. Hein.
Il n'était même pas suivi en plus, d'autant plus. Parce que, par exemple, il y a aussi ce débat qu'on aurait pu aussi avoir, et que, il me semble, vous avez déjà eu, sur certains États américains ou pays qui font ce qu'on appelle la castration chimique ou physique. De dire simplement...
Mais ça ne t'empêche pas d'avoir des attouchements
sexuels. Exactement. C'est que malgré tout, il y a aussi ce qui se passe dans la tête, et quand on a un esprit vicié à ce niveau-là, on a beau castrer physiquement ou chimiquement, on continuera, et la preuve, il a continué, il est récidiviste. Donc, moralement, j'aurais envie de vous dire non, parce que je ne peux pas croire qu'on doive avoir à vie et ad vitam aeternam une étiquette sur la tête d'un passif de violeur ou d'agresseur sexuel. D'un autre côté, je comprends parfaitement que pour les parents, pour les proches de la victime, pour les parents tout simplement d'enfants, ils aient envie de savoir où on se trouve, dans quel...
Et quitte à comme voisin.
Et quitte à comme voisin. Je sais qu'il y a, justement, Rémi l'a cité, il y a certains États américains qui, en plus de mettre en place un moteur de recherche, on va imposer à ce que des accusés en liberté aillent taper à la porte de leur voisin pour dire bonjour, j'ai agressé sexuellement quelqu'un il y a 5 ans, je vous le dis, vous êtes prévenus. Il y a une obligation morale qui est faite à ce niveau-là. C'est d'un côté l'absence de rédemption et de droit au pardon, mais d'un autre côté une mesure de prévention que je peux parfaitement comprendre.
Perico, les gars, est-ce que vous seriez pour, mais qu'au moins le maire d'une ville soit au courant que dans sa ville il y a quelqu'un qui a agressé sexuellement une mineure, par exemple. Et est-ce que ça, ce serait finalement, ce serait bien pour vous?
Il y a la tragédie. Je suis père de famille et chaque fois j'entends un fait divers, ça en fait deux là. Évidemment que je suis. Ma fille me dit, papa, il faut que je vive, et je suis moi-même traumatisé. Ça veut donc dire, c'est dans le Lot, je crois, hein, ou dans le. Ça peut donc arriver dans les contrées françaises les plus tranquilles, ça pourrait être dans le Périgord.
Ah bah oui.
Ça veut dire qu'on est à l'abri de rien. Il y a la tragédie. Et Pierre vient de le dire, les familles victimes doivent se dire, tous les moyens sont bons pour empêcher ça à d'autres parents. Mais, et Jérôme me soutiendra, il y a le droit. Il y a le droit humain, il y a le droit juridique, il y a le droit de la République, voilà. On peut pas jeter un anathème, ou alors on est en Corée du Nord et en Chine, d'Azibao, pourquoi pas la photo
mais quand
du...
Tu prends un non,
la Grande-Bretagne, c'est pas la
Corée du Nord, tu
vois. Je vais aller à l'objectif. Est-ce que j'ai la garantie que ça va changer les choses? Peut-être en partie, on va me dire oui, peut-être en partie.
Ah, ça peut être dissuasif.
Non. Hélas, si vraiment il y a la pulsion, quelles que soient les précautions qui soient prises, même si l'individu en question sait qu'il va tout de suite être repéré, on voit bien que cet homme, marié, petit enfant d'un mois.
On
le dit casé, 31 ans. Bon. Vous imaginez la pulsion qu'a dû être la sienne pour repérer sa
propre passée à l'acte. Oui, mais t'as toujours le truc de te dire peut-être que tu seras jamais retrouvé. Tandis que là, si tu sais que tout le monde sait, en vrai, quand même, ça doit être dissuasif.
Il sait qu'il y a des caméras, il sait bien qu'on va le retrouver.
À Tonnins, dans le Lot-et-Garonne, assez peu.
Estelle, il n'y a pas un crime de ce genre qui n'a pas été dans la journée ou dans les deux jours.
Là, c'est la prévention.
Oui, je veux vous dire.
C'est se protéger contre de futurs agresseurs.
C'est cher payé. Si j'étais victime de ça, je vous dirais, non seulement ça, mais voilà, on le pique tout de suite.
Tu sais que ton voisin, par exemple, il a été, toi t'as les enfants en bas âge, tu sais que ton voisin il a été condamné pour agression sexuelle. Bon bah a priori tu sais qu'il s'installe près de chez toi, bon bah soit tu déménages, soit tu gardes un œil.
En deux secondes je vous raconte une anecdote. Quand j'étais gamin, que ce soit au Pays Basque ou même, il y avait toujours, je dis ça d'une façon générale, quand on arrivait il y avait toujours quelqu'un qui dit attention, le monsieur en question il a déjà violé une petite fille. Alors souvent ça se réglait, le papa lui avait cassé la gueule. Ça n'allait pas plus loin parce que, eh oui, la petite fille, c'était une affaire un peu scabreuse, on n'osait pas le dire. Et puis la troisième fois, on a dit, ah oui, un autre, c'était, du coup, il est allé en prison, il avait violé une petite fille. Ça fait quand même deux fois qu'il le faisait. Vous vous rendez compte de l'évolution des mœurs politiques et des mentalités? C'est-à-dire qu'on ne le disait pas, ou c'était considéré comme une affaire privée.
Mais soit, mais heureusement que ça évolue.
Mais quelle époque! Et ça veut dire que dans chaque village, toute personne.
Oui, mais donc tu le savais à l'époque.
On le savait.
C'est ce que je te dis.
On savait, fallait pas parler au monsieur, fallait pas prendre ses bonbons, fallait pas lui croiser. Souvent, c'était des anathèmes épouvantables jetés contre quelqu'un qui l'avait d'ailleurs plus ou moins commu. Il avait la réputation d'eux. J'ai très peur de ces anathèmes publics. Et si la personne est totalement remise? Il y en a qui sont réinsérés, heureusement. Mais c'est celui qui n'est pas réinséré, qui n'est pas soigné, qui va commettre le crime. Donc là, j'ai vraiment besoin de l'avis de juristes, de législateurs. Est-ce qu'une société comme la nôtre, évoluée avec les droits de l'homme, peut jeter en pâture à l'opinion publique un forfait d'un être qui a commis un crime fort, quitte à briser le reste de sa vie alors qu'il...
N'oublions pas, aussi,
bien sûr. Ah mais je suis totalement
d'accord. On sera avec une avocate pénaliste dans un instant.
Si c'était moi, oui. Je vais vous dire, si c'était moi, oui. Or,
Mais c'est pour
comme
ça,
a dit Camus, un homme ça s'empêche.
C'est pour ça que la société fait en sorte que ce soit pas toi.
Jérôme Lavrieux.
Bien sûr, voilà.
C'est le propre de notre société. Si on raisonne, parce que ça est arrivé à ma nièce, à quelqu'un, j'ai pas d'enfant, mais ça arriverait à ma nièce, je pense qu'on serait tous fous furieux. Fous et furieux. Pour
et
répondre à ça.
C'est un récidiviste,
en fait. Mais je ne vois pas. Alors, c'est un récidiviste, mais il était mineur.
Oui.
Donc, quand vous êtes majeur, le casier est effacé, publiquement.
16 ans avant,
ça, c'est déjà un problème.
De l'enjeu. Aussi changer.
Si vous me le permettez.
Même un mineur, j'ai vérifié ce matin, à partir du moment où il y a eu.
Non, mais il n'est pas considéré comme récidiviste.
Non, mais il est inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs des infractions sexuelles. Il y a 43 000 personnes qui sont inscrites dans ce fichier des délinquants. 43 000 en France.
C'est exactement, et tu as parfaitement raison, comme toujours, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'en fait, il y a deux choses. C'est que la personne est connue des services et elle reste connue des services. D'ailleurs, il a été coffré immédiatement. Ils ont identifié 4 ou 5 véhicules avec des caméras de vidéosurveillance. Oui. Merci les caméras de vidéosurveillance. Ils ont regardé les propriétaires des véhicules. Ils se sont dit, tiens, celui-là, ça sonne. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ils sont allés chez lui tout de suite. Ça, c'est un sujet. Donc, on l'a coffré tout de suite, mais malheureusement, parce qu'il venait de refaire quelque chose de pas bien, de détestable, d'horrible. Mais le fait de dire qu'une... Moi, je part du principe que c'est la justice qui condamne et qui fixe la peine. Soit d'accord ou pas d'accord avec elle, c'est elle qui fixe. Il a été condamné.
Sur la base d'une loi, hein. Sur la base d'une loi
faite par des législateurs. Il a été condamné, il a effectué sa peine.
15 jours. 15 jours.
C'est un mineur.
Mais alors.
Et Estelle.
Bah, c'est pas le même prix.
Il aurait fait 3 ans.
Ouais.
Ça a changé quoi?
Peut-être qu'un suivi psychologique.
Alors, c'est là
c'est autre chose.
Adapté.
Je te remercie d'en venir où je voulais qu'on arrive. C'est que je pense que il y a des peines qui sont pas adaptées. C'est là où ça déconne. C'est là où la justice déconne. Et qu'un type comme ça qui a été condamné pendant, en plus de sa peine, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, soit obligé, pour avoir une piqûre de rappel, d'aller toutes les semaines pointé au commissariat ou au poste de gendarmerie le plus près possible pour lui dire on continue à vous surveiller.
Ça,
à mon avis, ça serait autrement plus efficace. Parce que le mec, il sait que non, ça n'a pas été facile. Parce que peut-être que même lui-même finit par dire j'ai rien. Mais ça, ce serait plus efficace.
Vous vous rendez compte qu'on fait ça pour des mecs qui lancent un fumigène sur une pelouse. Vous vous rendez compte. Et on ne fait pas ça pour un délinquant sexuel.
Je suis d'accord.
Enfin, il y a quand même un truc qui va.
On est bien d'accord.
Je suis d'accord.
On n'a pas dit que c'était bien. Il y a des choses.
Moi, il m'est arrivé d'être poursuivi. J'ai violé personne.
Oui.
J'ai tué personne.
Oui.
J'ai porté atteinte physiquement, moralement à personne. Mon nom était affiché partout.
Ah oui.
Je fais pas un déplacement sans qu'on m'en parle. Il se passe pas une journée de ma vie sans qu'on m'en parle. J'ai rien fait que ce qu'on m'avait demandé de faire et qui n'ait aucune violence, rien du tout, etc. J'ai même pas détourné 1 euro à mon profit, quoi que ce soit. Moi, j'ai pris perpète. Et il y a des mecs qui violent quelqu'un. Ben, ils ont fait 15 jours de tôle.
Mais
la justice qui est défaillante. Mais le débat de dire, est-ce que nous tous, on doit être au courant de tout ce qui se fait? Imagine, on dit, il y a un débat récurrent. À l'Assemblée, il y avait même une des propositions de loi qui ont été faites pour dire, on devrait avertir les maires du village.
Ah oui?
Oui, mais le maire, il fait quoi?
Mais au moins, il le sait.
Oui, d'accord. Le maire, il le sait.
Il a une discussion avec
le maire. Le type, il va violer quelque chose. On va dire, monsieur le maire, c'est vous le responsable, vous étiez au courant.
Tu discutes au moins avec et tu dis, voilà, on vous a à l'œil,
Moi, je pense qu'il faut leur dire, vous allez pointer au commissariat.
Exactement.
Les 3 jours, tous les 8 jours. Un terroriste islamiste qui a purgé sa peine, qui peut pas être expulsé. Il y en a un dans le centre de la France qui peut pas être expulsé du pays, parce que le pays d'origine ne veut pas le reprendre, eh bien, il va pointer tous les jours à la gendarmerie.
Et souvenez-vous,
il
y avait eu un fait divers affreux dans un lycée où, en fait, un gamin avait déjà violé une gamine, il avait été changé de lycée, et il a changé de lycée, il a tué une autre gamine, et personne n'était au courant. Donc, il y a un moment où il y a quand même. On devrait être au courant, pas nous, citoyens,
mais
je veux dire, les directeurs des lycées, les directeurs de. Je veux dire, les maires, et puis peut-être les directeurs des établissements publics quand tu es.
Il y a quand même des failles dans le système. Il y a de ça quelques semaines, je ne sais plus, il y a 2 ou 3 semaines, tu sais, on l'avait traité dans les immanquables. On a appris que désormais, pour les personnes qui travaillent avec l'aide sociale à l'enfance, il y aurait obligation d'avoir un casier judiciaire vierge.
Mais ce qui était hallucinant, c'est
qu'il n'y en
avait pas avant.
Voilà, c'était pas le cas avant.
C'est incroyable. Sinon,
il y a quelques années, il y avait un professeur qui avait abusé sexuellement de plusieurs élèves dans sa classe. À l'époque, ça avait fait un ramdam pas possible. Je crois que c'était la Jalvalo Belkacem qui était la ministre de l'Éducation nationale, si je me souviens bien, qui a dit on va faire un grand audit pour voir en France. Et on avait quand même trouvé 6 ou 7 enseignants qui étaient en activité, qui avaient été condamnés pour pédophilie.
Ou alors un bracelet à vie.
Ah ben c'est ça. Non mais voilà, mais en tout cas un système qui soit peut-être.
Il l'a avec lui, il sait qu'il est suivi.
C'est ça, exactement. On est avec Alexandra Aurélizine, c'est notre invitée sur ce débat. Elle est avocate pénaliste au bureau de Paris, spécialiste des affaires de viol. Merci beaucoup, maître, d'être avec nous.
Oui, merci à vous.
Alors c'est un sujet épineux, hein, évidemment, et extrêmement complexe.
J'ai suivi un petit peu là votre échange qui était assez animé, et je comprends tout à fait parce que ça touche ça touche tout le monde, parce que tout le monde se dit oui, mais si ça arrivait à mon enfant ou à un proche. Et moi la première, parce que avant d'être avocat, je suis aussi une mère de famille. Mmh. Et évidemment, comme tout le monde, comme tout citoyen, je me dis voilà, qu'est-ce qui évidemment il y a les règles de droit, il y a la loi qui doit protéger les libertés privées, individuelles, etc. Et je pense que tout le monde est d'accord que notre priorité absolue, c'est quand même que les enfants soient protégés
en sécurité.
et que on puisse éviter au maximum qu'on puisse prendre le maximum de mesures. Alors moi j'ai une vision un petit peu partagée, évidemment, parce que je peux pas vous dire aujourd'hui de façon assez démagogique, de toute façon tout justifie, toute atteinte à la liberté est justifiée si ça peut quand même protéger une récidive quelconque. Mmh. Parce que de toute façon, moi, je suis pas certaine. Aussi, par exemple, le FIJS, aujourd'hui, il y a quelque chose qui, pour moi, est un peu scandaleux du point de vue des libertés publiques. C'est-à-dire que, quand bien même vous n'êtes pas encore condamné définitivement, vous êtes simplement mis en examen et présumé innocent, on va quand même, dans le doute, vous mettre sur ce fichier qui est quand même extrêmement infamant. Oui. Et j'imagine que bon, là aujourd'hui, heureusement, ce fichier il est d'une diffusion restreinte, parce que c'est sur certaines autorités judiciaires. Mais imaginez si vous êtes quand même présumé innocent et
oui,
et
mais là on parle de là on parle
mais c'est
en
pas
fait
le cas, justement.
Nous on se disait casier judiciaire de gens qui ont été condamnés, c'est-à-dire que la justice les a condamnés.
Alors je comprends bien. Alors sur le cas de personnes qui ont été condamnées, comme justement le cas qui est triste de Vanessa ce week-end. Mm. Moi, je pense que de toute façon, plus que un suivi et le fichier qui fait qu'il y aurait une affiche publique, parce que je pense pas que ce soit le citoyen lambda qui soit le plus à même pour rendre la justice.
Mais au moins les élus.
Il faut qu'il y ait un suivi.
C'est ça.
Il faut qu'il y ait un suivi. On peut pas les lâcher dans la nature. Quand vous avez un gamin qui a 15 ans commet un viol ou une agression sexuelle grave, le monsieur, il va pas bien, et je pense
c'est sûr, oui.
Il ira pas bien toute sa vie.
Il faut surtout s'il a pas de suivi psychologique.
Mais oui, il faut qu'on le surveille. Il faudrait peut-être aussi, sur certains cas, pas forcément les mineurs, mais sur les majeurs et les cas les plus graves, réfléchissons quand même. Excusez-moi, j'ai peut-être choqué certains teints, mais la castration chimique.
On l'a évoqué.
Oui, mais ça n'empêche pas les attouchements. C'est-à-dire que vous pouvez être castré chimiquement, mais vous pouvez.
Il y a l'esprit
vous
aussi.
Vous pouvez malheureusement agresser sexuellement un gamin.
La castration chimique, c'est pas simplement le fait que physiquement on vous empêche de faire quelque chose. Normalement, quand vous avez ce traitement-là, en parallèle, vous avez quand même un suivi psychologique. Oui. Alors, de toute façon, empêcher à 100% et avoir une solution certaine, à part creuser un trou et jeter la personne au fond et la laisser mourir. Mais je pense que là, quand même, on peut pas aller sur une solution qui soit aussi extrême. Donc, privilégions ce suivi psychologique, cet accompagnement physique.
D'accord.
Et de toute façon, la castration physique, faut pas l'oublier, dans tous les pays où elle a été mise en place, c'est une démarche volontaire. On ne peut pas contraindre la personne.
T'as pas mutilé quelqu'un.
Ça résoudra rien.
Alors le bracelet, par contre, il peut être imposé.
Exactement.
Et c'est pas une mutilation.
Oui. Merci.
Le bracelet, il peut être imposé. Le bracelet, encore faut-il y consentir aussi. Parce que
non, je parle de quelqu'un de condamné. Quelqu'un de condamné, il a son bracelet à vie.
Bah oui. Voilà.
Mais ça, en tout cas en France, ça n'existe pas.
Il suffit de décider, madame, politiquement. Il suffit d'une décision politique.
Oui, mais encore faut-il être, avoir un domicile, avoir structure qui se prête au bracelet. Excusez-moi.
Mais ça, je suis d'accord. Non, mais bien sûr.
Non, c'est pour vous suivre. C'est un bracelet qui fait qu'on suit l'individu.
Oui, mais c'est derrière chaque bracelet, t'as un policier.
Non, mais l'homme qui s'est suivi et qui sait qu'il est localisé en permanence, je peux vous dire qu'à mon avis, ça réfrène quand même certaines ardeurs.
Donc c'est l'effet dissuasif. Merci beaucoup en tout cas, Maître Alessandra Aurilizine, d'avoir été avec nous sur ce débat. On va continuer dans un instant, on aura le témoignage de Jean. Jean, son père était délinquant sexuel et en fait, lui, il milite justement pour que tout le monde puisse avoir accès aux fichiers des délinquants. Il nous expliquera son histoire dans un instant, puis on aura également Médéric qui nous a appelé au 3216 et qui voulait témoigner sur ce sujet. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC. RMC Story, toujours avec Rémi Barre et Perico Légas, Pierre Rondeau et Jérôme Lavrieux. On parle bien sûr de cet horrible meurtre de Vanessa, une adolescente de 14 ans. Son meurtrier est un homme de 31 ans qui avait déjà été condamné pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs. Et on se demande s'il faut rendre public le casier judiciaire des délinquants sexuels. Vous avez des messages et des précisions à apporter, Rémi.
Oui, exactement. Il y a ce message, par exemple, de Marc qui, lui, n'est pas favorable à cette mesure. Il nous dit, n'oubliez pas que les agresseurs sexuels sont bien souvent des victimes dans leur enfance. Ce sont les budgets et une politique volontariste des services sociaux et de la protection de l'enfance qui diminueront ce phénomène. Voilà, ça c'est.
Oui, d'accord. Non, mais ça, on est bien d'accord. Ok, merci.
Et je voulais apporter une précision parce qu'on a donné le cas de certains États aux États-Unis où là, simplement, ce sont des fichiers accessibles au public. Donc vous rentrez votre adresse et vous voyez s'il y a un délinquant sexuel autour de vous. Tout simplement.
Tu déménages direct.
Ça, c'est le cas aux États-Unis. Il y a même en Californie des quartiers qui sont interdits d'habitation pour une personne qui a été fichée en tant que exactement. Il y a l'exemple de la Grande-Bretagne que je donnais tout à l'heure. Lorsque vous engagez un babysitter, un professeur particulier par exemple, en tant que particulier, vous pouvez vous rendre dans le commissariat local de votre quartier et demander avec le nom de la personne si cette personne est fichée. Et puis il y a le cas autrichien où là le fichier des délinquants sexuels est ouvert évidemment à la police, mais également aux services scolaires et aux services sociaux. C'est-à-dire qu'un proviseur de lycée, par exemple, peut vérifier si l'un de ses professeurs est fiché ou non.
Oui, ce qui paraît quand même assez logique.
Et en fait, au fur et à mesure où j'entends ces exemples internationaux, je me demande, mais pourquoi on ne le fait pas déjà en France? Je sais qu'en France, par exemple, pour les professeurs et les candidats à la fonction publique, lors de l'inscription au concours, il y a une demande de casier judiciaire, vierge. Donc à ce niveau-là, ça peut être fait en amont.
Sauf que
la condamnation, là, c'est l'agression sexuelle, donc elle restera dans le fichier, justement, des agresseurs sexuels.
Si je peux me permettre, il y a une évolution de la législation. Je pense pas me tromper, je parle sous le contrôle de Rémi. C'est depuis l'affaire dont on a parlé tout à l'heure avec Najat Vallaud-Belkacem,
un enseignant qui a agressé sexuellement.
Maintenant, quand il y a un enseignant qui est condamné, alors qu'il est déjà enseignant, le ministère de la Justice a obligation de communiquer l'information au ministère de l'Éducation nationale. C'est maintenant une obligation, ce qui permet de répondre
ce qui paraît logique,
mais j'attire vos attentions que ça fait pas longtemps que ça existe.
Répète encore une fois, on est tous d'accord sur le plateau pour dire qu'il faut améliorer les moyens de la justice, du suivi, qu'elle soit psychologique ou judiciaire, de pouvoir contrôler ces agresseurs, probables récidivistes, mais en tout cas agresseurs condamnés. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une manière d'informer les familles, les quartiers, via les mairies, via les maires, via les élus directement, ou alors un moteur de recherche qu'il peut avoir en Amérique du Nord pour vérifier si effectivement la personne a été condamnée ou non. Ça me paraît juste être une évidence. C'est pas une étiquette qu'il va avoir, parce que certains États américains, comme la Californie, sont très rigoristes à ce niveau-là. C'est une interdiction claire et nette, des zones interdites pour des condamnés. Là, c'est vraiment dans l'extrémisme. Mais juste histoire d'information. Tu parlais tout à l'heure, Perico, d'un bracelet qui permet de prévenir,
psychologique,
de rappeler. Ça veut dire que t'as une peine à vie.
Je rejoins.
Tu peux pas avoir une vie sociale à nouveau.
Je rejoins l'argument de Perico. Si on est pour un bracelet, on est aussi pour la transmission d'informations. Et que quelqu'un qui s'installe dans un quartier, on devrait savoir si cette personne est oui ou non condamnée.
Il y a que lui qui
personne ne voudra que cette personne s'installe dans un quartier. Personne n'a envie d'avoir chez soi un voisin pédophile.
C'est pour ça que c'est pas soit l'un, soit l'autre. Le débat est plus complexe. C'est aussi, en plus de ça, renforcer les contrôles psychologiques et le suivi psychologique pour que cette personne puisse se réinsérer dans la société.
quand bien même, tout ça, bracelet ou révélation publique. Je ne pense pas, hélas, que ça empêche certains cas.
Bah, c'est fait en Californie, et pour autant, en Californie, encore les viols et des.
Par principe, ça ne peut pas empêcher tous les cas, puisque la personne qui fait pour la première fois, on ne le sait pas avant qu'elle va le faire.
Alors déjà, c'est pour les premiers, ça arrive.
Donc, il y a un moment où les premiers arrivent. Je suis désolé d'inciter sur ce fait-là. Moi, je pense que c'est surtout qu'il faut qu'il soit à l'œil. Moi, je connais des personnes qui sont atteintes du trouble bipolaire. Ça n'a strictement rien à voir. Oui, je mélange pas les choses. Ils sont soumis à prendre des médicaments. Eh bien, la Sécurité sociale, pour vous vérifier qu'ils prennent leurs médicaments, parce s'ils les prennent pas, ils peuvent partir en vrille totale, elle envoie une infirmière tous les matins et tous les soirs qui donne les médicaments et qui vérifie qu'ils absorbent bien les médicaments chez eux. Et donc, on est plus sévère pour eux.
C'est un coût, alors.
C'est un coût. Mais le coût majeur, c'est si cette personne ne prend pas ses médicaments et part en vrille complet, ça coûte beaucoup plus cher à la société.
Je vais aller, Estelle, de l'autre côté de la scène en deux secondes.
Allez-y.
Au lieu de faire de ce côté-là, de l'agresseur, du côté de la victime, est-ce qu'on peut, alors on va dire que c'est impossible, est-ce qu'on peut équiper tous les enfants qui ont un trajet avec une petite... que l'enfant puisse signaler
surveillance,
par une... Voilà, juste signaler par un bracelet lui-même, une petite montre, qu'il est en danger.
Mais après,
pour ceux qui sont dans un trajet seul...
C'est ce que font les parents
seul,
déjà, Perico. Les parents,
ça existe, hein,
mais... équipent leurs enfants de smartphone avec
des... Il y a des systèmes, par exemple, on n'a pas...
Non mais là, il faut le généraliser.
...de marque, mais il y a des systèmes où tu prends un petit bouton avec toi. Moi, j'en ai eu un pendant une période.
Oui.
Tu as juste un tout petit bouton qui est dans ta poche. Tu appuies dessus et ça déclenche 4 numéros.
Voilà.
Tu peux même mettre un numéro de police national ou municipal qui envoie un message et qui te géolocalise à ce moment-là. Et c'est très efficace.
Enfin, quand t'as un gamin qui a 8 ans, dis donc, t'imagines la responsabilité. Excuse-moi, dire à un gamin de 8 ans, alors attends, tu vas avoir un petit bouton sur toi s'il y a un méchant monsieur qui arrive, t'appuies, mais c'est pas possible.
Attendez, la gamine, vous vous rendez compte qu'il l'a prise de force, après ce qu'on nous dit, il l'a mise dans la voiture. Dans la voiture, elle aurait peut-être eu le temps d'actionner quelque chose. Enfin, voilà. Je connais pas les circonstances.
C'est pas le sujet.
Si, c'est le sujet.
Le sujet, c'est. Ben non.
Non, vous vous parlez de comment empêcher. Moi, j'ai dit comment empêcher. Moi, j'ai dit comment
protéger.
Bon, alors moi, je me soucie de l'enfant. Comment équiper l'enfant de ses parents qui voudraient d'une protection. Je suis désolé, ça peut sauver des vies. Voilà.
Mais d'accord. Ah, mais évidemment. Si t'as plus, je veux dire déjà de délinquants sexuels dans les rues.
Ça n'existe pas. Là, vous rêvez. Par contre, que l'enfant susceptible d'être agressé, qui a un trajet où il est seul ou un petit peu distant, est un moyen d'alarme. Ça, je suis désolé, c'est pas négligeable.
On est avec Jean. Jean qui nous appelle d'Angers et son témoignage est très intéressant parce que Jean, je crois que votre papa est délinquant sexuel et inscrit au fichier, justement.
C'est ça. Bonjour Estelle,
bonjour
tout le monde. Oui, mon père est inscrit au délinquant sexuel parce qu'il a fait des attouchements sur deux de mes sœurs. Alors, le pauvre petit bouchon, il a eu 5000 euros d'amende à payer sur chacune de mes sœurs.
Ah, c'est peu.
Il doit venir pointer à la gendarmerie une fois par an. Et autrement, il a eu un an avec sursis.
D'accord.
Je pense que ça s'est passé sur des années et des années. Alors, moi, j'entends le débat. J'ai évolué. Au départ, je voulais que tout le monde soit au courant de qu'il y a le nom du délinquant sexuel. Après, moi, j'ai pensé surtout aux victimes. Aux victimes collatérales. Par exemple, moi, sachant qu'il y a je vais pas dire son nom, mais mon père, son nom a été dévoilé. Moi, j'aurais pu être
discriminé.
Oui, associé.
Voilà, discriminé par rapport à ce qu'il a fait. Et je pense aux victimes aussi. Les victimes, elles ont pris la perpétuité dans leur souffrance. Mes sœurs, elles vont beaucoup mieux aujourd'hui. Mais aujourd'hui, elles sont à perpétuité à avoir ça dans leur tête. Ça y est, c'est passé. Il va seulement une fois par an pour pointer. Moi, je serais d'avis que tous les élus, les profs, les directeurs d'école, de lycée, soient au courant de ce qui se passe, qu'il y a maximum de monde, mais pas tous citoyens non plus, quoi.
Mais par exemple, Jean, vous, votre papa, est-ce que ses voisins, par exemple, sont au courant de son passé ?
Je l'ai menacé de tout révéler, puis par rapport à mes sœurs, elles étaient pas d'accord.
Oui.
Mais j'étais très tenté de... Parce que sachant qu'il a refait sa vie avec une personne qui avait des enfants en bas âge, dans leur accord, vous voyez, il a été en jugement, ils étaient avec, et dans leur accord, ils voulaient pas savoir de ce qui s'était passé dans leur vie antérieure, tous les deux.
D'accord.
Ce qui est très facile, mais je pense qu'elle est totalement au courant, mais elle ne voulait pas croire. Mais pour ça, je ne comprends pas, même sa nouvelle femme, comment elle a pu... Elle a pu se mettre avec une personne comme ça. Mais oui, il faut plus de contrôle. Et puis il faut un suivi psychologique obligatoire. Parce que lui, dans le jugement, il n'a jamais eu de suivi obligatoire.
Ouais, c'est incroyable.
Pour moi, quelqu'un qui fait des choses comme ça, c'est à vie. Il n'y a pas de raison. C'est ancré en lui, c'est des pulsions. Et pour moi, c'est pas possible qu'on puisse guérir de ça. Mais oui, il faut un suivi beaucoup plus drastique.
Merci beaucoup en tout cas Jean pour ce témoignage. C'est vrai que c'est assez hallucinant. Merci d'avoir été avec nous en tout cas dans Estelle Midi. Vous vouliez réagir, Jérôme?
Non, c'est exactement la question que je voulais poser à Jean, mais il a répondu. C'est qu'est-ce que lui, en tant que victime collatérale, mais victime tout court, parce que c'est toute la famille qui a explosé, ce que lui proposait, et en fait il propose que ce que nous on en déduit, c'est que il faut partir du principe que vous faites
de l'autorité publique,
vos trois semaines, vos trois mois, votre année avec sursis, vos 5000 euros d'amende, hop, terminé. Et puis alors là, ils ont été très durs, ils ont dit une fois par an, il faut aller pointer au commissariat.
Ouais. Il y a 3364 jours dans l'année.
Le fait que vous soyez obligé d'aller pointer une fois par semaine ou une fois ça prend 5 minutes, vous allez au tribunal. Et si vous n'êtes pas pointé, hop, tout de suite ça sonne, on va vous chercher parce qu'on sait où vous êtes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, ça, ce serait...
Ça rafraîchit la mémoire.
Mais ça nécessite une réforme de la justice.
Oula.
Et de permettre aux magistrats d'être un peu responsables des décisions qu'ils prennent.
Après, ce qu'a dit Jean...
Celles qu'ils ne prennent pas.
Et ce qu'a dit Jean, et qui est très intéressant, c'est que ça jette l'opprobre aussi. Parfois, je veux dire, ces délinquants, ils ont une famille, ils ont des enfants, les enfants, ils sont pour rien. En vrai, et ils vont être montrés du doigt, etc. Alors qu'ils ont déjà rien demandé. Enfin, ils ont un père déjà qui est délinquant sexuel, c'est déjà assez dur à porter. Et en plus derrière,
c'est pour ça qu'il faut se méfier de notre propre pulsion à nous, qui est de dire il faut y aller front.
Franco.
Mais attention à faire.
Jérôme soulève
irréparable.
Jérôme soulève un problème extrêmement épineux et douloureux dans cette République. Je prends de manière, c'est une affaire latérale. Un père de famille dont la petite fille s'était fait écraser par un chauffard. Il a pris 4 ans, 3 ans avec sursis, 1 an avec bracelet. Il me dit, lui, et le père dit, voilà, moi j'ai perdu ma gamine, ma vie est foutue. Et lui, il vit sa vie normalement. Là, il y a un problème, effectivement, d'autorité judiciaire qui n'est peut-être pas très autoritaire.
On a Médéric qui nous appelle de Vendée. Bonjour Médéric.
Bonjour Estelle.
Et Médéric, vous êtes assistant maternel, c'est rare.
Oui.
Et vous vouliez témoigner sur ce sujet.
Alors j'entends tout ce qui se dit depuis midi sur ce sujet. Je suis totalement d'accord en ce qui concerne la protection des enfants, tout le bien-être qu'on veut apporter au niveau des enfants de par la protection, au niveau de cette proposition en fait de rendre public les casiers judiciaires. Je voudrais juste étendre un petit peu le sujet sur les personnes, justement, la généralisation qu'on peut en faire sur les hommes d'une manière générale. J'entendais aussi, il y avait eu le débat ce matin aux Grandes Gueules, notamment qui disait tous les prédateurs vont vouloir travailler avec les enfants. On est parti du cas du meurtre de Vanessa, qui est horrible, hein, là-dessus. Je ne vais absolument pas le discrédit là-dessus, mais on est parti de ce sujet pour généraliser le fait que beaucoup de prédateurs vont vouloir travailler avec les enfants.
Médéric, par exemple, vous êtes assistant maternel. Admettons, moi j'ai envie que vous gardiez mon gamin, d'accord ? Est-ce que ça vous paraîtrait pas normal que je puisse avoir accès, en tout cas, à votre casier judiciaire, que je puisse savoir si oui ou non vous avez déjà eu, vous avez déjà été délinquant sexuel, vous avez déjà été condamné ? Si vous n'avez rien à vous reprocher, finalement, c'est pas un problème.
Oui, mais alors ça, je vais mettre un bémol là-dessus. Qu'on ait sens, qu'on soit prof, qu'on soit assistant maternel, ou d'une manière générale, qu'on travaille avec les enfants, et notamment dans la petite enfance, nos casiers judiciaires sont vérifiés par les instances qui nous chapotent.
D'accord.
Et si effectivement on a des antécédents vis-à-vis des enfants, nous n'avons pas les accréditations.
Mais voilà, dans un cadre officiel, mais je rappelle que par exemple pour tout ce qui concerne les gardes d'enfants, parfois aux blagues ou déclarés, mais les nounous.
Par principe, on va demander un casier judiciaire pour quelqu'un qui n'a pas déclaré.
Maintenant, c'est déclaré. Excusez-moi, mais maintenant, il y a certaines gardes d'enfants qui sont déclarées.
Tu mets une annonce,
tu peux te payer en chagrin post-service, en facturation, sans demander un casier judiciaire.
Allez-y, Médéric.
Oui, mais Estelle, quand on fait de la garde d'enfants, bien souvent, c'est du babysitting. Bien souvent, quand on connaît des gens qui sont à côté, est-ce qu'on connaît nos voisins un petit peu, les gens, enfin, des jeunes,
on les connaît, on croit les connaître.
Pas forcément. Dans une grande ville,
dans le cadre du privé, là où je veux je veux qu'on y mette une vigilance, c'est que là, c'est en train de passer sur le côté de tous les hommes sont potentiellement des prédateurs.
Non,
et donc, on n'a jamais dit ça en plus.
Les hommes qui travaillent dans la petite enfance, et c'est le problème parce qu'il y a déjà, j'entendais votre débat du mois dernier sur les assistants maternels hommes, il y en a déjà pas beaucoup. Si en plus on doit subir cette espèce de préjugé pour dire on est potentiellement un prédateur, va y avoir encore moins de professionnels dans ce secteur-là. Et on va être jugé en permanence.
Non, mais il faut écouter ce que dit Médéric. C'est pas absurde comme raisonnement. Je rappelle que le fait divers précédent, c'est une femme d'abord.
Il n'est
pas forcément des sujets masculins.
Le rappeler.
Ça peut être aussi.
Il me semble que dans la fonction publique, à chaque fois que ce soit professeur, capétien ou agrégé, à chaque fois on demande au concours le casier judiciaire. Il n'y a pas pour autant une raréfaction masculine dans le professeur.
Non, bien sûr que non.
Elle est globale, la raréfaction. Donc, ce n'est pas dû à la stigmatisation.
Pour autant, je ne suis pas sûr que ça empêche l'accident le jour où elle doit se produire.
L'impulsion. On vous a posé. Merci, en tout cas, Médéric, d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. On vous a posé la question sur le compte Twitter de l'émission Estelle Midi, rendre public le casier judiciaire des délinquants sexuels. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, Eric?
Ce n'est pas étonnant. C'est un oui massif. On l'a déjà traité de sujet sur est-ce que la justice est trop. Est-ce qu'elle est défaillante? Est-ce qu'elle est trop laxiste avec certains? Mais chaque fois, on a le même type de résultat. Là, c'est un oui massif, oui à 82% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux.
Et parce qu'il y a aussi une très forte dimension émotionnelle, évidemment, à ce débat. Ah, dans un instant, tout autre sujet, Anthony Morel qui va vous faire baisser votre facture d'électricité grâce aux nouvelles technologies. Va nous faire des économies, Anthony. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Midi 50 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi et c'est le moment d'accueillir Anthony Morel.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et aujourd'hui, Anthony, vous allez nous faire faire d'énormes économies. Vous allez notamment nous faire baisser notre facture d'électricité grâce aux nouvelles technologies.
Ouais, et grâce aux objets connectés. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais avec ces objets connectés, ils nous fatiguent, Morel, c'est du gadget. Non, on parle d'économie.
Vous n'allez pas dire ça.
Non, mais il y a peut-être des gens qui pensent ça. Voilà, je me mets à leur place.
Ça m'étonnerait.
Voilà, comme Perico Legas. Là, on parle de choses qui vont faire des économies substantielles. Par exemple, alors, la star en la matière, et peut-être certains d'entre vous en ont déjà d'ailleurs à la maison, c'est les thermostats connectés qui fonctionnent très, très bien. Thermostats connectés, c'est des petits boîtiers qu'on installe à la maison qui vont permettre depuis son smartphone. Vous aviez ça déjà?
Ah, c'est super.
Alors il y en a plein, il y a des marques américaines, Nest, ça appartient à Google, des marques françaises aussi comme Netatmo, Tado aussi, une marque européenne. Et donc petit boîtier, et vous allez depuis une application mobile savoir exactement où vous en êtes au niveau chauffage, et surtout vous allez pouvoir paramétrer y compris à distance. Donc vous rentrez du boulot, vous augmentez la température pour que quand vous arrivez il fasse chaud, mais le reste de la journée vous pouvez laisser la température au minimum. Et ça, mine de rien, ça va vous faire faire des économies de l'ordre de 15 à 20% sur la facture d'électricité. C'est l'ADEME qui donne ces chiffres-là. Visiblement, en termes de rapport coût-efficacité, le thermostat connecté, c'est la solution la plus rentable pour faire baisser sa facture devant les pompes à chaleur, devant les panneaux photovoltaïques. On peut tout faire en même temps.
Mais c'est moins cher quand même.
Mais voilà, c'est moins cher parce que là, pour le coup, pour un investissement d'une centaine d'euros, ça dépend entre 80 et 150 euros en fonction des marques, vous allez quand même faire des économies qui sont complètement intéressantes, quoi.
Et en plus, ce qui est drôle, c'est que vous voyez le comparatif avec l'année d'avant. Vous essayez de battre l'année d'avant.
Alors, c'est ça.
C'est super. C'est assez rigolo.
Exactement,
quoi.
Parce qu'il y a un petit côté jeu vidéo. Vous avez à fait raison. Parce que le deuxième point le plus important, et c'est ce que permet la technologie, c'est la visualisation. La visualisation de comment est-ce qu'on progresse et qu'est-ce que chaque appareil consomme quasiment à la minute près. Ça, il y a des outils qui permettent de faire ça. Alors, il y a des applications qu'on peut télécharger. Je pense par exemple à HelloWatt qui fonctionne bien. Des petits assistants intelligents, par exemple le Echo Joco, c'est un petit assistant qui va se coupler au disjoncteur et qui va vous dire à chaque instant, mais vous voyez en fait les euros et les centimes d'euros qui défilent.
Ah, mais j'adore.
Donc, c'est génial. Pour le coup,
alors là, Echo Joco,
ECOJOCKO.
D'accord.
Voilà. Et donc, vous pouvez voir exactement où est-ce que vous en êtes en termes de consommation. Et là, en fait, c'est une étude du CNRS qui montre que le fait de prévisualiser, en fait, les euros qui défilent, ça fait baisser votre consommation de 23%, parce que je sais pas, c'est notre petit côté grippe-sous à chacun d'entre nous qui ressort.
On a tous les jours et on peut comme ça.
Et en plus, on voit effectivement sa progression, donc il y a un petit côté jeu en même temps.
Et donc on télécharge cette appli et
alors il faut télécharger l'appli et il faut acheter un petit assistant qui va avec. C'est un peu comme les thermostats. Ouais, il faut acheter l'appareil qui va avec. Ouais, absolument. Mais les applis comme EcoWatt, HelloWatt par exemple, elles sont gratuites et elles font aussi le job. Ça fonctionne bien. Ça se connecte au compteur Linky en fait. Donc vous allez avoir un suivi très précis également.
Je vais voir ça ce soir.
Voilà.
Vous n'êtes pas venu les mains vides, Anthony Morel, vous êtes venu avec une prise.
Oui, alors la prise, vous allez me dire, on connaît quand même, hein, la prise électrique quand même. Mais celle-ci, elle est un peu particulière, c'est une prise connectée et le but, ça va être d'en finir avec le fléau des appareils qui restent en veille. Ça, ça représente 11% de la consommation électrique des Français. C'est massif, hein, c'est vraiment pas rien. Tous les appareils qui restent en veille. Et en fait, le principe, c'est que vous allez pouvoir brancher n'importe quel appareil à cette prise. Ça peut être une télé, ça peut être un grille-pain, ça peut être un ventilateur, ce que vous voulez. Et en fait, là encore, vous allez vous connecter au Wi-Fi et vous allez pouvoir la connecter à une application sur votre téléphone. Et vous allez voir quels appareils sont restés en veille et ceux qui ne le sont pas.
Mais un grille-pain, il n'est pas en veille.
Non, pas le grille-pain. Non, non, mais la télé, par exemple. La télé, typiquement, ça reste en veille très souvent. Bah là, vous allez pouvoir tous les appareils qui restent en veille, vous les éteignez depuis votre application et vous pouvez même paramétrer. À partir de 23h, tous les appareils qui sont en veille s'éteignent automatiquement.
Ah,
et
ça, bien, bah, ça.
C'est tout bête, mais mine de rien, pour 15-20 euros, et bah, ça permet de faire des belles économies.
Par appareil. Ah,
c'est ça, oui.
Alors, vous avez des multi aussi. Hein, bah, voilà, là, je vous ai apporté le petit modèle, mais vous avez des modèles.
Mais la multiprise, par exemple, la multiprise à 6 prises, tu sais à chaque fois quel appareil est connecté.
Alors, normalement, pour chaque prise, ouais, on sait, on peut la coupler en fait avec un appareil et on sait via l'application à quel appareil elle est couplée. Ah bah, voilà. Mais c'est facile à installer. Hein, franchement, c'est pas très compliqué et ça permet. Non, mais c'est notamment sur la télé, parce que la télé, on la laisse en
veille. Mais la console, surtout.
La console de jeu.
Avec le gosse qui l'éteint jamais.
C'est vrai que l'économie d'énergie, c'est pour qu'il arrête de regarder la console.
C'est vrai que l'appareil se rallume beaucoup plus. Ouais, c'est la solution, effectivement. La
je ne sais pas où est le bouton pour l'éteindre.
C'est avec la manette. Voilà, vous avez le menu option.
Bah, non,
vous aussi, il y a un bouton aussi. Non.
Autant la débrancher, c'est quand même.
Mais débrancher, ça fonctionne bien.
Bah, vous avez bien raison.
À la barbare.
L'autre gros poste de dépense, c'est l'eau chaude. Et là encore, il existe des solutions.
Alors oui, alors là, il y a une solution un petit peu radicale. Je ne sais pas si vous avez. Ne plus laver. Alors c'est. Non, un cran en dessous quand même. C'est la douche qui vous enguirlande quand vous restez trop longtemps sous l'eau chaude.
Ah, je vais mettre ça dans mes gîtes.
Alors, c'est très très sympa. Alors, il y a un petit côté ludique là encore. En fait, c'est un système de diode électroluminescente sur la pomme de douche. Donc, la lumière va changer. Donc, petite ambiance boîte de nuit. Vous commencez votre douche. C'est vert, bleu, des couleurs un peu sympas. Voilà. Ouais. Bon, vous commencez votre douche. 10 litres, 20 litres, 30 litres. Ça passe en violet, ok. 50 litres, ça passe en rouge. Ah, rouge, alors là, vous êtes, c'est complètement anxiogène. Hein. Vous
c'est
avez
juste de la couleur,
rouge,
en fait.
Qui vous coule sur le corps, quand même. Hein. Donc voilà. Et là, vous allez, normalement, vous dire, c'est le moment de sortir de la douche.
Non,
et
pas.
Là encore, couplé à une application pour voir les économies que vous réalisez, comment vous progressez mois après mois, etc. Ça s'appelle Hydrao.
J'ai un doute.
Ça marche.
Oui, ça fonctionne.
Bah, sinon, je le frotte peut-être.
Vous pouvez l'acheter. Comment?
L'eau froide au bout de 10 minutes.
Ah oui,
c'est
très efficace.
Une impulsion électrique.
Une impulsion électrique. On parle de choc électrique.
Moi, la prise, j'aime bien.
Et les watts. Et puis, vraiment, les petits thermostats connectés, enfin, c'est tout bête. On peut se dire, c'est du gadget. Vraiment, ça fonctionne bien et ça fait faire des économies non négligeables.
Merci beaucoup, Anthony Morel. Tous les jours, 12h50, dans Estelle Midi. Dans un instant, on parle de la proposition d'Aurélien Pradier, candidat à la présidence des LR. Il veut instaurer un impôt sur le revenu pour tout le monde, même 1 ou 2 euros par mois. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? On vous attend nombreux au 32-16. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
RMC, football. Samedi 4 mai à 15h, au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, le 4 mai à Montpellier, avec RMC.